Après Vibre SOS sur l'antenne de Graphite, vous écoutez tous les samedis Biotine entre 12h et 13h depuis un certain nombre d'années. Merci de votre fidélité. Bienvenue donc sur l'antenne de Graphite, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet et sur la bande FM 94.9 pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme. Biotine, l'émission de science tous les samedis entre 12h et 13h. Je m'appelle Jean-Noël et enfin, je suis heureux de retrouver Carole dans ce studio. Bonjour Carole.
Bonjour Jean-Noël.
Il y a longtemps que je ne t'avais pas vu dans ce studio, tu m'as fait des infidélités.
Quelques semaines, ah bah écoute.
Et je n'aime pas ça.
Mais je suis revenue, c'est le principal.
Tu es revenue, bah c'est le joli mois de mai, c'est peut-être ça qui t'a fait revenir.
Oui, il fait beau, enfin ça dépend.
On espère. Nous sommes en effet déjà le 25 mai. Cette année sera passée très vite. Hein, on parle d'année scolaire, là, on parle au niveau de la programmation, on a démarré en septembre. Et on arrive un peu à la fin déjà de cette saison, c'est assez effrayant. Le 25 mai pour l'éphéméride, alors parfois il y a des trucs drôles et puis des fois un petit peu moins, c'est la journée internationale des enfants disparus.
En effet, c'est vous.
Ça démarre
sur une bonne note, une très bonne ambiance cette émission.
Mais c'est un peu étonnant en fait qu'on décide, tiens, on va faire une journée internationale des enfants disparus. C'est-à-dire qu'on en parle le 25 mai, puis après, c'est assez étonnant, on ne sait pas trop la raison. Sinon, d'une façon un petit peu plus intéressante, et en tout cas d'un point de vue science et technique, ce 25 mai, il y a eu quand même pas mal d'éléments assez intéressants. En 1842, donc ça nous remonte quand même assez loin, Christian Doppler, donc déjà son nom, on s'en souvient, évoque quelque chose. Il a présenté à l'Académie royale des sciences à Prague un rapport sur la lumière colorée des étoiles doubles et d'autres étoiles du ciel. En fait, ça utilise l'effet Doppler dont il a établi la théorie. Ça date de 1842, mine de rien. Je pensais que c'était plus récent, en fait. En 1928, donc nous sommes au XXe siècle, lors de la deuxième expédition polaire de Nobile, son dirigeable va s'écraser au nord de cette expédition polaire. Ça avait été assez retentissant à l'époque 1928. Les dirigeables, effectivement, étaient un moyen de locomotion à l'époque qui était assez innovant, on va dire, assez majestueux à voir, mais assez dangereux et ça n'a pas trop duré par la suite. Et assez récemment, il y a 2 ans, le 25 mai 2017, c'était le premier tir d'essai du lanceur Electron depuis la Nouvelle-Zélande, qui elle aussi se lance dans la course. Au niveau des naissances, eh bien, nous allons partir en Italie. Je t'emmène en Italie le 25 mai 1812. 1812 est né en Toscane Filippo Pazzini, qui est un anatomiste italien. Il est devenu célèbre après sa mort pour avoir isolé le bacille du choléra. C'était en 1854, une trentaine d'années avant qu'un autre, Robert Koch, K-O-C-H, je crois qu'on dit le bacille de Koch, et non pas le bacille de Koch, le bacille de Koch, il a refait cette découverte et puis il a eu un petit peu plus grand succès dans l'opinion, parce qu'on se souvient plus du nom de Koch que de Pazzini, qui est le premier à l'avoir découvert. Il est donc né à 25 mai 1812. Il meurt à Florence. Pas mal, ok, mais il meurt dans un hospice de pauvres parce qu'il était totalement ruiné par ses recherches scientifiques et il a également dépensé pas mal d'argent pour soigner ses deux sœurs malades et donc les soins médicaux, ça l'a totalement ruiné et il a une fin de vie pitoyable. Filippo Pazzini, son nom était quand même important à évoquer aujourd'hui pour évoquer un petit peu sa mémoire. Autre éphéméride, cette fois, il est mort à 25 mai 2005, donc il est assez récent, c'est Alexandre Favre, ingénieur physicien français, professeur émérite à l'Université de la Méditerranée, membre de l'Académie des sciences. Il est particulièrement renommé pour ses travaux sur l'état de turbulence. Alors évidemment, pour le grand public, la turbulence, ça nous évoque certaines choses, mais d'un point de vue physique, c'est des éléments très importants. Et Alexandre Favre est un ingénieur, un physicien très connu dans ce domaine-là. Il est donc décédé un 25 mai 2005 à Marseille. Ça, c'est l'éphéméride. Vous le savez, l'année 2019, c'est l'année internationale du tableau périodique des éléments de Mendeleïev.
Parce que
l'ONU s'est dit, il faut décider une année, on va essayer de mettre en avant certaines choses. Donc des fois, c'est assez intéressant. Et notamment, cette année pour cette émission Biotine, ça nous est totalement intéressant de pouvoir remplir ensemble le tableau des éléments de Mendeleïev. On se souvient tous de ce grand tableau qui se trouvait dans nos salles de classe. Et vous le savez, toutes les semaines, tous les samedis dans cette émission, nous remplissons une case.
On
et aujourd'hui, aujourd'hui, la case numéro 7,
oui.
Ça va être l'azote.
Ah, on connaît, là on connaît.
L'azote, un gaz qui compose majoritairement l'atmosphère terrestre, 78% en volume, donc c'est vraiment important, on pense tout de suite à l'oxygène, et non, c'est l'azote en fait, qui compose majoritairement l'atmosphère céleste, et en dessous de moins 196 degrés, il passe à l'état liquide. Ça aussi, c'est quelque chose d'un point de vue physique qui n'est pas facile à appréhender, parce que on a toujours la référence de l'eau qui passe à l'état liquide à 0 degré et va bouillir à 100 degrés. Et bien là, à moins 196 degrés, donc c'est quand même très très froid, il passe à l'état liquide. Il n'est pas glacé, il n'est pas solide, il passe à l'état liquide. Et donc, il peut être bien sûr utilisé dans les systèmes de refroidissement, en cuisine moléculaire évidemment, conserver des tissus biologiques. Il est l'azote également essentiel à la vie puisqu'on le retrouve dans l'ADN. Cet élément a plusieurs oxydes, comme l'oxyde nitreux, qui est un gaz hilarant. Pas besoin de ça ici.
C'est très efficace, il suffit d'en parler.
Exactement, et ça sert d'antidouleur. Et il y a aussi, bien sûr, le dioxyde d'azote qui, lui, est un polluant vraiment majeur.
Oui.
Donc, on parlait de l'azote liquide. Ça permet une congélation instantanée, donc utilisée en cuisine moléculaire, pour surgeler des mousses, pour confectionner des crèmes glacées. On a tous vu ces grands bidons d'azote liquide. Pas facile à dire, bidon d'azote liquide. Parce que tu as des œufs, t'as des deux, t'as des teux, c'est pas évident. Le mot azote vient en fait du mot grec zoé, qui signifie. Tu n'as jamais fait de grec comme
alors
moi.
Alors si, j'ai fait pourtant un an de grec grand débutant, mais ça date. Hein.
Et bien ça veut dire vie.
Ah,
zoé.
En fait tout simplement. Ah, je ne savais pas que le prénom et zoé voulait tout simplement dire vie.
Donc ça vient de zoé et on va ajouter le préfixe privatif a. Qui veut donc dire sans vie. En fait, c'est un nom proposé par Lavoisier, nous sommes en 1787, après avoir déterminé que l'air comportait deux constituants, dont l'un permet la respiration et donc la vie, l'oxygène bien sûr, et l'autre non, et on s'est dit, bon, on va l'appeler sans vie, et donc azote. Le corps simple de l'azote, c'est le diazote, bien sûr, un gaz inerte à pression et température ambiante, et son symbole chimique, c'est le N. Ne demandez pas pourquoi, on n'en sait rien, mais en tout cas, c'est le N, le numéro atomique, pardon, c'est le 7. Donc on a tous rempli, nous sommes très contents et très fiers, la case 7 de ce tableau périodique des éléments de Mendeleïev, et on a parlé d'azote dans cette émission. Oui, ça fait du bien parfois de parler d'azote. On va tout de suite te laisser la parole, Carole, et puis on retrouvera également tout à l'heure, j'ai oublié de le dire en début de cette émission, Anne Fleur, qui nous emmène depuis un mois maintenant, je pense, nous emmène un petit peu partout. Elle choisit une ville ou une région du monde et elle nous parle des inventions qui ont été créées dans cette ville. Et on verra, je ne sais pas du
tout. J'ai hâte de découvrir, c'est la première fois que je vais l'entendre en live.
En live, je ne sais pas où est-ce qu'elle va nous emmener, mais je pense qu'elle va nous emmener dans une région qui lui tient particulièrement à cœur. On verra ça pendant cette émission. De quoi vas-tu nous parler? Parce que l'actualité est bien sûr très très riche d'un point de vue scientifique.
Exactement. Et puis alors, pour faire la transition avec l'azote, donc sans vie, on vient d'apprendre quelque chose. Je vais justement vous parler de la vie et plus généralement de la biodiversité, puisque Jean-Noël, tu l'as sûrement entendu comme nous tous. Donc au mois de mai, début du mois de mai, s'est tenu le GIEC de la biodiversité à Paris. Alors cette session en fait s'est ouverte fin avril et elle a eu jusqu'au 4 mai pour adopter un rapport multilatéral dressant un bilan mondial de l'état de la biodiversité et des services écosystémiques. Il s'agit en fait de l'analyse la plus complète de la nature depuis l'évaluation décisive des écosystèmes pour le millénaire réalisée en 2005. Donc ça faisait déjà quelques temps. Et donc, à cette occasion, des scientifiques et des diplomates de plus de 130 pays se sont réunis en début de ce mois de mai pour dresser l'état de la biodiversité dans le monde. Vous allez me dire, cher auditeur, vaste sujet. Hein.
Oui. Il nous faut au moins 3 émissions, je pense. Là.
Oui, alors on va essayer de synthétiser.
Je compte sur toi, bon courage.
Voilà. Alors justement, j'avais énormément de pages sur le sujet. Donc là, j'ai tenté une petite synthèse avec, on va dire, les choses importantes à retenir. Et surtout, ce chiffre qui a été relayé par l'ensemble des médias lors de la sortie de ce rapport, c'est 1 million d'espèces animales et végétales menacées d'extinction. sur les 8 millions, ça on en discutait juste avant l'émission, Jean-Noël, sur les 8 millions qui peuplent la Terre.
Tout à fait, c'est ce qui a été estimé, oui.
Donc ça, je trouve que c'est vraiment un chiffre vertigineux. Alors si on essaye de rentrer un peu plus dans le détail, avec les principaux impacts de l'homme sur la nature qui ont été identifiés, eh bien ce rapport, hein, encore une fois, il dresse la première compilation exhaustive des dégradations de la nature du fait de l'action humaine. Donc moi je vais vous citer quelques indicateurs pour qu'on se rende un peu compte, parce que c'est important à un moment, je pense, de revenir aux chiffres pour se rendre compte vraiment de l'impact de l'homme sur la planète. Alors déjà, 75% des milieux terrestres et 66% des zones marines sont sévèrement altérées par les activités humaines. Ce qui est quand même, dans les deux cas, largement plus de la moitié. Je trouve que c'est quand même très angoissant. 47% des milieux naturels sont en réduction. Pareil, c'est quasiment la moitié. 87% des zones humides ont disparu depuis le XVIIIe siècle. Alors on le sait, ça a peut-être déjà été évoqué dans une ancienne émission, les zones humides, elles jouent un rôle très très important. Donc ça veut dire que presque la totalité ont disparu simplement en quelques siècles. Donc on l'a dit et il le répète, 1 million d'espèces menacées actuellement d'extinction. Et ce taux actuel en fait, d'extinction, il est supérieur à la moyenne des 10 derniers millions d'années. Donc, pareil, ça remet en perspective sur l'échelle des temps géologiques.
Parce que ça va vite, en fait.
C'est-à-dire que en fait, l'accélération, c'est surtout ça qui fait très peur. L'accélération, elle est énorme.
Parce qu'on parle de disparition assez rapidement dans les prochaines décennies. Oui. Alors, ce qui, à l'échelle d'une vie humaine, bon, on se dit, on ne verra peut-être pas ça. À l'échelle de l'humanité, c'est rien.
C'est ça, tout à fait, c'est rien.
Faut toujours relativiser, en fait.
Exactement, alors qu'à une époque, certes, il y avait des extinctions, mais visiblement, elles étaient quand même beaucoup plus sur le très long terme, sachant qu'il y a toujours, on va dire, un taux d'extinction qui va être normal. Des espèces vont être remplacées par d'autres suite au changement de l'environnement. Mais là, c'est vraiment un taux d'extinction qui est lié aux activités humaines, en fait, hein, quasiment. Et alors, justement, un chiffre que j'ai trouvé intéressant, qui cette fois-ci concerne les animaux domestiques. Donc là, vraiment, que l'homme a formé, que l'homme a sélectionné. Et donc, sur 560 races d'animaux domestiques, donc il y en a 560 plutôt qui ont disparu en fait en 2016. Voilà, ça a été comptabilisé. Et ça correspond en fait à 10% du nombre total de races exploitées par l'homme. Donc, ça veut dire qu'en 3 ans, 10% du nombre de races exploitées par l'homme ont disparu.
C'est étonnant.
C'est étonnant et surtout, là, on se rend bien compte que ce n'est pas du tout un phénomène naturel. Alors évidemment, l'action de l'homme sur les animaux domestiques, elle est artificielle, hein, elle n'est pas naturelle. Mais une disparition de 10%, ça prouve quand même que ce n'est pas simplement un choix sélectif avec le développement de nouvelles espèces et de l'abandon de certaines. Non, ça veut vraiment dire qu'il y a eu une disparition qui a été liée, aux activités humaines, c'est-à-dire la pollution, déforestation, etc., même sur donc, les animaux domestiques.
Il y a même peut-être l'idée, comme tu disais tout à l'heure, de privilégier certaines espèces parce qu'elles produisent, plus de viande, plus de lait, plus de cela.
Il y a dû avoir ça, mais en 3 ans, en fait, ça paraît...
C'est rapide.
C'est rapide. Donc je pense pas que ce soit justement, c'est pas détaillé là, mais que ce soit simplement sur ce type de choix. Ça veut dire aussi qu'il y en a qui ont disparu, j'ai envie de dire un peu malgré nous, ils ont pas fait exprès, ils se sont rendus compte qu'elles avaient disparu parce que elles ont été visiblement mises en danger par certaines activités. Pour donner quand même quelques autres chiffres, et bien sûr il y en a eu plein d'autres évoqués dans ce rapport, 33% de la surface terrestre du monde et 75% des ressources en eau douce sont consacrées à la culture et à l'élevage. Donc ça, c'est de dire comme on est tributaire, encore une fois, de la ressource en eau. 33% des stocks de poissons marins étaient surexploités en 2015 et 60% étaient exploités au maximum. Donc on parle souvent de la surpêche, du fait que ça détruit toute la faune marine. Voilà. Et on prévoit justement par rapport à ça que 3 à 10%, donc c'est la diminution justement qui est prévue de la biomasse de poissons d'ici la fin du siècle, du fait aussi du réchauffement climatique. C'est-à-dire que déjà il y a la surpêche, on laisse pas le temps en fait aux poissons de se développer, d'avoir les cycles de vie normaux pour que justement il y ait une bonne quantité. En plus, on a le réchauffement climatique qui va entraîner une diminution de 3 à 10%. La forêt, c'est une catastrophe puisque la surface forestière qui a disparu entre 1990 et 2015 en raison du déboisement et de la coupe de bois, elle correspond à 290 millions d'hectares. Donc déjà, je trouve que c'est un chiffre qui est difficile à se représenter.
Qui laisse sans voix, en fait.
Et tout à fait, et qui laisse sans voix, sachant que dans le même temps, la surface des villes a doublé depuis, donc, ils ont daté ça de 1992. Donc, pareil, d'accord, date extrêmement récente.
C'est 25 ans.
25 ans en 25 ans, la surface des villes a doublé.
D'accord. C'est gentil de nous avoir bien plombé l'ambiance.
Oui, alors, non, après, on va justement parler de la suite et de parce que si ce rapport a été établi, c'était aussi peut-être pour qu'il y ait une prise de conscience et qu'il y ait des actions, même si à chaque fois on en parle et on dit que les gouvernements ne sont pas assez réactifs, mais des actions soient menées. Je vais quand même finir sur deux chiffres. 40% de la population mondiale n'a pas accès à l'eau potable. C'est quasiment la moitié. Mmh. Et 80% des eaux usées mondiales sont rejetées, non traitées dans l'environnement.
Bien
alors
sûr.
Ça me paraît énorme. Par contre, moi, je pensais que c'était moins, avec tous les retraitements qui existent dans les pays développés. Je ne pensais pas qu'on était à 80% des eaux usées mondiales rejetées dans l'environnement sans traitement.
Mais les pays développés ne sont pas si nombreux que ça, en fait.
C'est-à-dire voilà,
et d'avoir instauré un vrai assainissement de l'eau, c'est encore moins nombreux. Ce n'est pas tous les pays développés. Le piège, il est là. Mmh. La Chine, on considère que c'est un pays développé ou pas? C'est toute une question. D'un point de vue assainissement, tu as déjà 20% de la population.
Oui. Alors, ce que je vais ajouter suite à donc, ces chiffres, c'est que on est d'accord, la conclusion, c'est que les tendances au déclin de la biodiversité et à la dégradation des écosystèmes, là, elles sont mises en évidence à un rythme sans précédent. Le rapport, en fait, contient donc beaucoup de chiffres qui sont là un peu pour marquer les esprits, puis surtout pour mettre en évidence tous ces phénomènes. Hein. Par exemple, alors on va compléter le tableau quand même. En Europe et en Asie centrale, 28% des espèces évaluées sont menacées d'extinction. Donc là, voilà, on a un peu une répartition par zone géographique dans le monde. Ce chiffre donc de 28% des espèces menacées d'extinction, il monte à 37% pour les poissons d'eau douce, 33% pour les plantes vasculaires. Autre exemple, on estime que 75% des milieux terrestres, 40% de l'environnement marin et la moitié des cours d'eau donc, sont gravement altérés. Alors, les causes de ces évolutions négatives, bien sûr, c'est d'abord l'utilisation des terres pour l'agriculture, l'exploitation forestière, l'urbanisation et les prélèvements directs qu'effectue l'homme, comme justement la pêche, la chasse. Je l'ai cité au préalable, il y a bien sûr le changement climatique qui joue aussi, les pollutions et les espèces invasives. Un autre pan important de ce rapport, c'est l'évaluation des services écosystémiques qui tente en fait de quantifier l'impact de la dégradation des écosystèmes sur la production alimentaire, celle du bois, la pollinisation, l'érosion des terres, la qualité des eaux et également les valeurs culturelles. Donc c'était vraiment au sens très très large pour essayer de se rendre compte de l'impact de cette dégradation du coup sur notre futur. Alors, le rapport, finalement, qu'est-ce qu'il préconise? Eh bien, il dit déjà que l'arsenal législatif et réglementaire qui existe permettrait d'améliorer la situation, mais à condition qu'il soit correctement appliqué. Bon, c'est-à-dire qu'on a certains outils, mais visiblement, on ne les utilise pas intégralement. L'une des recommandations, c'est de modifier les modes de consommation de l'énergie et de l'alimentation. Ça, c'est vraiment une thématique actuelle. De veiller à ne pas exporter à distance. Par exemple, quand la consommation de bois dans un pays, elle conduit à la déforestation dans un autre. Ça, faut éviter. Ça paraît du bon sens, mais ça se fait encore. Une autre piste, c'est de rapprocher les gens de la nature, y compris dans les villes. Où par exemple les surfaces végétalisées elles permettent de réguler la température ou d'améliorer l'écoulement des eaux de pluie. On connaît maintenant les problématiques qu'on a dès qu'il y a des fortes chaleurs, ces fameux îlots de chaleur en ville qui sont quand même particulièrement insupportables. Alors on imagine que ce combat il va être encore long et difficile puisque les problèmes de la biodiversité et du climat ils relèvent souvent d'un même combat de fond. Et pour ça, il faut modifier les modèles économiques et les modes de consommation. Donc, on n'apprend rien, mais ça fait quand même du bien de rappeler cette conclusion. Et bien sûr, c'est dans ces synergies entre solutions pour le climat et pour la biodiversité qu'on peut espérer des actions à fort impact. Il existe de très nombreuses initiatives locales pour la biodiversité, comme pour le climat. Et beaucoup de grandes entreprises ont pris conscience de l'importance de la biodiversité et de ses services. Mais bien sûr, tout cela doit être complété et renforcé par des initiatives venant des gouvernements. Encore une fois, il faut que les pouvoirs politiques soient beaucoup plus courageux sur cette question.
Oui, c'est toute la question, effectivement. Alors, tu parlais de ce groupe d'experts de l'ONU sur la biodiversité. Son président, c'est Robert Watson, qui a dit « Il n'est pas trop tard pour agir, mais seulement si nous commençons à le faire maintenant, via un changement transformateur, dit-il, de notre société. » pour ralentir les moteurs de la perte de biodiversité qui menace l'homme au moins autant, comme tu l'as dit, que le changement climatique. C'est ce qu'il a dit. C'est encore possible. Il n'est pas trop tard pour agir, dit-il. Même si certains quotidiens, je pense que c'était Libération, avaient titré en une « C'est trop tard ». Ou je ne sais plus si c'était Libération ou Le Monde qui avait fait, mais en méga une, « C'est trop tard ». Non, il reste encore positif, mais comme tu l'as dit, il va falloir à un moment avoir une vraie action, parce que les actions, elles existent, mais elles sont trop locales, elles sont trop éphémères, et certains, effectivement, industriels ou groupes industriels sont impliqués dans ce domaine-là. C'est très bien, mais c'est encore trop peu. Et donc, du coup, il y a une vraie alerte, et il ne faut pas se réveiller. C'est pas d'aujourd'hui qu'on le sait, on en parle. Cette émission, elle a 10 ans. On parlait déjà il y a 10 ans de cette biodiversité et de ce réchauffement climatique. Ça ne veut pas dire que ça a commencé il y a 10 ans, ça a commencé bien avant, mais
bien avant,
on en parle tout le temps dans cette émission. Et ce qui est assez effrayant, malheureusement, c'est que on a encore des rapports qui sont complets, qui sont assez exhaustifs. Les médias se disent « Ah oui, il faut faire des choses ». Tu as des gens qui manifestent, et notamment les jeunes qui avaient marché dans les rues pour dire « Non, c'est lamentable, c'est notre héritage que vous êtes en train de pourrir ». C'est très bien tout ça, et puis en fait, ça n'avance pas. Donc,
ça n'avance pas assez vite, hein.
Ça n'avance pas assez vite parce que les chiffres que tu viens de donner donnent clairement l'idée que ça va de plus en plus vite. On est dans une phase exponentielle, c'est-à-dire que va falloir plus que courir maintenant après cette courbe qui est en train de d'augmenter d'une façon assez effrayante. Alors, depuis l'apparition de ce rapport, donc au début du mois de mai, il y a eu pas mal de déclarations présidentielles ou autres. On verra bien ce que ça va donner. Tu l'as dit, évidemment, il faut que les pouvoirs publics, à un moment, prennent leurs responsabilités. Apparemment, ils vont peut-être les prendre, mais il faut que ça suive également. Et que c'est plus une notion de pouvoir public, c'est une notion d'humanité. Je veux dire, à un moment, il va falloir aussi que la collectivité internationale, tous ensemble, se mettre la main dans la main, marcher vers un même objectif. Le problème, c'est qu'on n'est pas certain que ça soit cela. Mais enfin, en tout cas, depuis le début du mois, il y a eu plein d'articles qui nous ont donné des exemples de cette biodiversité en péril. Alors, il y en a un article comme ça qui illustre, mais on peut en citer des dizaines et des dizaines, parlant des abeilles et de la disparition, bien sûr, annoncée des abeilles qui font réellement le buzz. Nous dit-on dans cet article, évidemment, le buzz pour les abeilles, c'était original. Bravo, bravo Futura Science. Mais on parle aussi des bourdons, qui, eux, sont moins populaires. Et il y a des chercheurs, pourtant, qui se sont récemment intéressés aux populations de bourdons qui vivent dans le Michigan, aux États-Unis et au Canada également. Et leurs travaux montrent, justement, des taux de présence des bourdons extrêmement bas. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que chercheurs ont compilé des données qui remontent jusqu'aux années 1880. On est sur une plage de presque 140 ans, c'est ça qui est intéressant, et ils ont essayé d'établir la distribution de 12 espèces de bourdons avant et après les années 2000. Donc dans cette large plage d'années, on va s'intéresser sur plus d'un siècle, et après on va s'intéresser sur les 15-20 dernières années, et ce qu'on apprend, eh bien, c'est qu'il y a une perte de 100% des bourdons à taches rousses. À taches rousses.
Ah, rousse.
100%, donc c'est terminé.
Oui.
98% des bourdons américains. Alors, je ne sais pas quelle est l'originalité des bourdons américains, mais 98%, ils sont déjà éradiqués.
D'accord.
71% des bourdons à bande jaune, 65% des bourdons jaunes. Donc, sur ces 12 espèces, on se rend compte, effectivement, qu'il y en a qui sont en train de disparaître. Alors, il y en a qui notamment le bourdon commun de l'Est et le bourdon à ceinture brune. Eux, ça va, leur population croisse. Ok, mais la biodiversité, c'est bien justement l'idée de la diversité, et dans ce cas, les bourdons, eh bien, c'est en véritable déclin, c'est vraiment important. Et le problème, c'est qu'on n'en sait, on ne connaît pas trop la raison aussi de ce déclin qui s'est précipité.
C'est pas les pesticides, il n'y a pas établi.
Il y a plein de choses, mais en tout cas, il n'y a rien de concret, de vérifié, en fait. Il y a beaucoup d'insinuations sur les pesticides, bien sûr, sur la culture intensive, mais ça n'est pas nécessairement apparemment que cela. C'est peut-être aussi l'écosystème qui est perturbé, le réchauffement climatique également. Il y a plein de choses qui vont être impliquées, qui font que voilà, il y a des vraies populations de bourdons qui sont en totale déperdition. Et les chercheurs estiment que le bourdon américain est donc dans la catégorie des espèces en voie de disparition imminente au Canada. Tu m'étonnes, il en reste 2%. Donc ça va être presque terminé. Et même si c'est encore présent au Canada, il va falloir faire attention pour le bourdon à bande jaune également. Donc il y a une vraie sensibilité, alors que quelque part, on s'en fout des bourdons.
Le problème,
il est là, c'est que ça n'intéresse personne. Quand je dis ça n'intéresse personne, d'un point de vue financier, un bourdon ne te ramène rien. Des abeilles, oui, mais parce que tu vas produire du miel. Ça me fait penser à cet article de Science et Vie qu'on avait évoqué dans cette émission, je crois que c'était en septembre ou en octobre, c'était en début d'année, au début de cette saison. C'était intéressant parce qu'on parlait de cette volonté, de cette action de la mairie de Paris qui avait souhaité installer des ruches. Sur les toits de certains bâtiments de la ville de Paris. Et il y avait un article qui était intéressant parce qu'il disait, oui, c'est très bien de mettre... Le problème, c'est qu'on va installer dans ces ruches une espèce d'abeille particulière qui va produire du miel et qui va donc du coup chasser toutes les autres espèces d'abeilles de Paris. Et donc, c'est une vraie question parce que là, on va privilégier une espèce, mais en termes de biodiversité, c'est alors, mais ça flingue toutes les autres espèces qui sont chassées du coup et on n'a plus qu'une seule... Enfin, on va arriver à Paris à avoir qu'une seule espèce d'abeille. Alors, qui produit du miel, c'est génial, comme ça on pourra donc en vendre, c'est parfait, hein. On va pouvoir rapporter des sous, on va pouvoir construire ensuite plus de pistes cyclables, c'est un cycle vicieux qui se passe à Paris, mais c'est encore, toi, une chose aussi intéressante de la biodiversité, c'est-à-dire qu'on est bien dans l'idée d'avoir plusieurs espèces, et pas nécessairement en privilégier une, et donc du coup, cet article de Futura Science, je trouvais intéressant de parler des bourdons, parce que quelque part, ça n'a pas d'impact.
En fait, ce qui est intéressant, c'est donc ils font partie des pollinisateurs et il y en a aussi plein d'autres. Donc, on a évoqué les abeilles, les bourdons, mais il y en a plein d'autres. Et en fait, il faut quand même rappeler que l'agriculture est tributaire donc des pollinisateurs. Et donc, la disparition du bourdon, évidemment, aura des conséquences sûrement désastreuses. Enfin, alors, je m'avance. J'espère évidemment qu'il ne disparaîtra pas complètement là, sur les zones dont tu parlais, aux États-Unis ou au Canada. Mais en tout cas, je pense que ça doit alerter très, très sérieusement. Et donc, ensuite, il y aura du coup des impacts énormes qui, pour l'instant, semblent peut-être pas réels, mais vont très vite arriver. Donc, c'est surtout ça, en fait, je pense, ce dont il faut prendre conscience. Et je pense d'ailleurs que des gens en ont conscience, hein, au niveau des chercheurs et des gens qui mènent ces études, bien sûr.
Des gens en ont évidemment conscience. Et quand je dis qu'on se fout du bourdon, c'est par provocation, évidemment. Mais quelque part, il n'y a pas non plus une action véritable sur le bourdon parce que, effectivement.
On ne fait pas de publicité sur le bourdon.
Parce que tu vas faire quoi? Tu veux vendre des pins avec des bourdons? Non.
Pourtant, c'est vrai que c'est magnifique à observer. Et puis, le bourdon.
Tu aimes les bourdons?
Moi, j'aime les bourdons.
Je pense que tu es une fille qui aime les bourdons, mais ça se voit.
Et en plus, théoriquement, ils ne piquent pas. Il faut vraiment. Les abeilles peuvent piquer, les guêpes, on sait ce qu'il en est. Mais le bourdon. Faudrait que je regarde exactement s'il est muni d'un dard ou non, mais normalement il ne pique pas.
Je te propose, parce que là tu nous emmènes sur un terrain assez intéressant, nous allons écouter un titre et pendant ce titre tu vas chercher voir si
je vais regarder.
On va regarder ça et puis on va se retrouver sur l'antenne de Graphite. Vous avez compris qu'on fait une émission un peu particulière aujourd'hui parce que je pense qu'on n'avait pas prévu d'en parler aussi longtemps parce qu'on arrive déjà presque au milieu de l'émission.
Ça passe à une vitesse,
mais de parler de ce rapport de ce qu'on appelle le GIEC de la biodiversité évidemment était vraiment indispensable dans cette émission Biotine. On écoute un titre. Je vais bafouiller toute la journée, Carole. C'est
ça
samedi.
Va aller.
Tu sais que je ne suis pas infaillible, malheureusement. Je m'en excuse.
Relaxe-toi.
Oui, c'est ça. Mais c'est cette disparition du bourdon qui me stresse un peu. On va écouter un titre et on se retrouve juste après, bien sûr, sur l'antenne de Graphite.
Al goûté pour chanter, pour maman et la pour lever. Nos qualités faut défendre, dans le roule à nous va ouais. N'a des pailles, nos petits carrés, tiens le barreau pour chaper, ouais. dans notre pays, faut pas les ennuyer. On a fait son mal au yano du pays. Papa Jamin, fais lève ma zapette. Allons voir grand-mère qu'elle a tient notre bébête. Le hypète, n'a rote de l'ombre sous boîte pintade. N'a pu faire plein ben joint pour soigner notre malade. N'a prendre le temps pour rire les rats. Tu pars à tout décider, crever, sera dehors, m'y veut croire. Laisse à moi dans mon erreur, elle est trop lourde le temps. Laisse à moi croire dans le bonheur, même s'il est pas fait tout le temps. Un petit coucou, n'y mette un attaque couleur. Un petit flair dans un coin, la coin. Un petit toit, pas plus loin, mon cœur. Un petit lait pour frigir le coup. Un petit cas courant d'air pour amener notre corps, il est lourd. Ferme pas dedans, trappe le bon, tire le sort. Là, faut pas y fan, faut tenir beau comme moi, frère. Oh, n'a fait son mal au yano du pays. Hey.
Nous, n'a le goût des pots chantés. Pour le maman, il a pour lever. Nos qualités, faut défendre. Dans le rond, la nous va ouais. N'a des pailles, nos petits carrés. Tiens le barreau, pour chaper, ouais. On a fait son mal au yano du pays, faut pas les sang. Nous, n'a le goût des pots chantés. Pour le maman, il a pour
pidos ou coco,
nous va faire,
nous va lève sans grand couteau,
ouais, nous va faire,
même la terre ça nous tombe, yeah.
Nous va plus faire, tout ça qui emmène la haine, nous va plus penser avec notre gueule, nous va plus penser nous chacun, c'est, et c'est de mon et Jimmy plan.
Laisse à ma croix, le temps à mal, l'oreille un tas d'étoiles, il brille dans les yeux, mon enfant. La misère, la guerre, c'est une mauvaise histoire longtemps. Prends le temps, mon tupi de bois pour toucher le ciel. Viens battre un carré, donne-les au pour dentelle. Des rondelles, citron, mettre piment de scie. À la mon Catherine, ça les doux comme su. Oh, n'a fait son mal au yano du pays. Hey.
Nous, n'a le goût des pots chantés. Pour le maman, il a pour lever. Nos qualités, faut défendre. Dans le rond, la nous va ouais.
N'a des pailles, nous nous petit pays, faut pas les sang.
Nous n'a le goût des pots chantés. Pour le maman, il a pour lever. Nos qualités, faut défendre. Dans le rond, la nous va ouais.
N'a des pailles, nos petits carrés. Tiens le barreau pour chaper, ouais. On a fait sans mal au yann. Nous petit pays, faut pas les sang.
Papa, papa, on a dormi toute la journée. Eh oh, papa.
Papa, réveille-toi.
Graphite 94.9 FM.
Et c'était Alex Sorès sur l'antenne de Graphite. Il vient de l'île de la Réunion. C'était sympa, ça nous a fait un petit peu balader. Alors, on est bien sur Graphite, vous écoutez bien Biotine, émission de science. Et donc, on a profité du titre d'Alex Sorès pour en savoir plus sur le bourdon.
Et sur les piqûres. Donc, le bourdon peut en effet piquer, mais il y a toute une explication sur le fait que sa piqûre est assez rare, puisqu'il est très peu agressif. En plus, ces piqûres ne sont pas dangereuses. Hein. Et donc, il arrive quand même très rarement qu'on soit piqué par un bourdon. Pour cela, il faudrait vraiment le déranger proche d'un nid ou vraiment le serrer en fait, dans sa main. Mais c'est pour ça qu'au passage des bourdons, généralement, on ne risque rien. Contrairement à la guêpe, par exemple.
Très bien. Bon, bah, soyons gentils avec les bourdons. En plus, il n'en reste pas beaucoup. Donc,
voilà.
Tant qu'à faire, laissons-les en paix. Est-ce que c'est tout sur la biodiversité, en tout cas aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je pense que c'est déjà pas mal.
Bon, bah, très bien. En tout cas, c'était un dossier vraiment intéressant. Merci, Carole. On parlait donc du GIEC, de la biodiversité. Le GIEC, qui est le groupe intergouvernemental d'experts sur le changement du climat, entre autres, parce que le GIEC, au départ, avait... c'était un petit petit peu renseigné et avait vraiment travaillé sur ce domaine-là. Je parle du GIEC parce que ça me fait penser à Anne Fleur qui avait interviewé, je crois c'était en 2009, donc ça fait 10 ans déjà, Jean Jouzel qui avait fait partie de ce GIEC. Et voilà, on avait eu une interview parce qu'à l'époque, le GIEC avait obtenu un prix Nobel de la paix en fait pour l'ensemble des travaux. Donc on s'était toujours, on avait toujours été fiers au sein de Graphite d'avoir dit qu'on avait interviewé un prix Nobel et c'était grâce à Anne Fleur. Superbe transition. Anne Fleur, je ne sais pas où est-ce que tu nous emmènes, mais à mon avis, on va peut-être un petit peu se rapprocher de la France, il me semble. Salut Anne Fleur.
Good morning Compiègne. Bonjour à tous, bonjour Jean-Noël. Alors j'espère que vous avez passé une très très belle semaine et que le week-end s'annonce aussi bien de votre côté qu'il s'annonce de mon côté. Ici, je vous parle toujours depuis Boston et je vais, comme à mon habitude, vous faire voyager en découvrant les inventions et les innovations d'une nouvelle région du monde. Et aujourd'hui, nous allons droit au cœur d'une région qui me tient particulièrement à cœur, ma région natale, ma chère et tendre Bretagne. Alors bien sûr, vous pensez aux crêpes, mais attention, les inventeurs bretons ont changé votre quotidien bien plus que vous ne le pensez. Prêt ? C'est parti ! La première invention dont je vais vous parler. Pour commencer notre tour de Bretagne, nous allons nous arrêter vers Quimper, où le jeune René Laennec est né, puis inventa le stéthoscope. Vous savez cet instrument que tous les docteurs de Grey's Anatomy ont autour du cou ? C'est en fait ce qui permet aux médecins d'ausculter le cœur et les poumons. Et celui-ci a été inventé, accrochez-vous bien, il y a un peu plus de 200 ans. À l'époque, il s'agissait d'un tube en bois, et il n'était relié qu'à une oreille. Et pour la petite histoire, c'est assez rigolo. Laennec, il a en fait inventé le stéthoscope parce qu'il n'était pas complètement à l'aise à l'idée de placer ses oreilles entre les seins en fait, d'une femme pour en écouter le cœur. Alors il s'est aperçu qu'un morceau de papier roulé et placé entre le torse, enfin entre les seins donc des patients, et ses oreilles, permettait d'amplifier les bruits du cœur sans pour autant être en contact physique avec le dit patient. Comme quoi, la timidité peut nous amener loin. La deuxième invention dont je vais vous parler, cette fois-ci nous allons partir en Ille-et-Vilaine, du côté de Rennes. Le Minitel, ce premier clavier qui trônait dans l'entrée de chez mes parents et sur lequel nous passions des heures à écrire nos prénoms étant petits avec mes frères et sœurs. Saviez-vous que le Minitel, est en fait l'abréviation de médium interactif par numérisation d'informations téléphoniques ? Non ? Bah maintenant vous savez. Le Minitel est donc un moyen de communication télématique développé à Rennes par France Télécom au début des années 1980. C'est la grande fierté française et la BBC l'a d'ailleurs nommé le France Wide Web. En référence au World Wide Web, le 3W, qui est donc Internet, parce que c'était bel et bien l'ancêtre d'Internet tel que nous le connaissons aujourd'hui. Alors oui, ok, Internet, ça date d'avant les années 80, certes, mais avant les années 80, c'était pas dédié au grand public. Et cette technologie a cependant pris sa retraite, officiellement en 2012, parce que Internet l'a quand même sacrément devancé. La troisième invention dont je vais vous parler, c'est une start-up. Vous savez que j'aime découvrir les start-up des différentes régions. Et bien c'est parti. Aujourd'hui, j'ai choisi la start-up Copix, C-O-P-E-E-K-S, qui vient de Lannion, donc du centre-Bretagne. La jeune start-up a été fondée en 2016 par un certain Gwenaël Lelay, un ingénieur d'Orange. J'ai bien aimé cette start-up pour son concept innovant. En gros, on utilise ici les objets connectés afin de pouvoir capter, analyser et ajuster les données d'environnement et les images des bâtiments d'élevage animal, mais aussi des cultures diverses agricoles. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, ça représente un gain de temps colossal à court terme, car pas besoin de faire le tour des bâtiments en continu pour mesurer les différentes variables, mais aussi à moyen et long terme, puisque ça permet d'anticiper au mieux les besoins de l'exploitation d'un mois, voire d'une année sur l'autre. Et donc, on leur souhaite une longue et belle vie à Copix. La quatrième invention dont je vais vous parler, nous allons du côté de Brest. Brest, une ville qui m'est particulièrement chère, puisque c'est ma ville natale. Et je vous parle ici de la TSF, a.k.a. Télégraphie sans fil. Saviez-vous que c'est à un certain Camille Papin-Tissot que nous la devons ? En 1898, Camille établit la première liaison radio opérationnelle française en mer entre le navire Le Borda et le sémaphore de Brest. Alors voilà, grande fierté, parce que c'est un breton. Et enfin, pour terminer cette visite, ce tour de la Bretagne, je vais vous parler du planeur, donc direction Douarnenez. Alors le planeur, oui, ce bel avion, je vous vois venir, mais non, c'est les frères Wright dans l'Ohio, blablabla. Eh bien non, détrompez-vous, et rendons à César ce qui lui appartient. Enfin, Jean-Marie quoi, enfin vous voyez. Jean-Marie Lebrise est donc un marin breton qui vient du Finistère, et il réalisa le premier vol tracté 50 ans avant les frères Wright en 1856. Fasciné par les oiseaux qu'il observait lors de ses voyages autour du monde, c'est de retour en Bretagne qu'il s'attela à la tâche de construire une machine à voler. S'appuyant sur le fameux principe de Bernoulli, l'albatros de Lebris était posé sur une charrette tirée par des chevaux au galop lorsque la vitesse engendrait une portance qui était finalement suffisante pour décoller. Il déposa d'ailleurs un brevet sur la portance de l'aile de ses planeurs en 1857. Et si le premier vol se passa à merveille, le second lui cassa la jambe lors de l'atterrissage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la balade. Pour briller en société, souvenez-vous donc que la start-up Copix vient de Lannion. Le planeur est parti de Douarnenez 50 ans avant les frères Wright. Que la Bretagne est fidèle à sa réputation d'expert en télécom puisque la TSF et le Minitel y virent le jour. Respectivement. Et enfin, que la médecine moderne doit son stéthoscope à un médecin timide né à Quimper. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.
Merci Anne-Fleur, je me disais bien que tu devais à un moment ou un autre faire une escale en Bretagne, ça ne me surprenait pas. Et donc Carole, la Enect, ouais, était timide, il y avait un respect de ses patientes et a donc créé ce fameux stéthoscope.
Invention qui, depuis, a été très, très utile.
Bien sûr, mais il fallait avoir l'idée, finalement. C'était oui. Ça paraissait évident, quelque part, et c'est lui qui a pu le concevoir. Merci Anne-Fleur. On te retrouve, bien sûr, la semaine prochaine. Je pense que cette fois, on va voyager très loin. On verra ça la semaine prochaine.
J'ai hâte.
Bien sûr. Carole, de quoi vas-tu nous parler ?
Alors, on va parler du premier tremblement de terre martien qui a été détecté.
Mon Dieu !
C'est pas non plus une certitude à 100%. Hein. Je vous explique ce qui s'est passé. Donc, c'était le 6 avril dernier. Le sismomètre français SEIS, déployé sur Mars dans le cadre de la mission américaine InSight, eh bien, il a capté, en tout cas on le pense, son premier séisme martien. Ça a été annoncé donc, par l'agence spatiale française CNES. Alors évidemment, les chercheurs s'enthousiasment. Hein. Philippe Lognonnet, chercheur de l'Institut de physique du Globe de Paris, dans un communiqué, dit que c'est formidable d'avoir enfin le signe qu'il existe encore une activité sismique sur Mars. Il dit également « Nous avons attendu notre premier séisme martien pendant des mois. » On les imagine peut-être en train de scruter chaque relevé ou en tout cas chaque transmission d'information, puisque le sismomètre SEIS pour Seismic Experiment for Interior Structure. Oui, j'aime bien, à chaque fois il y a forcément un petit peu d'anglais, là j'ai attendu.
Oui, mais toi tu t'en débrouilles beaucoup mieux que moi. Hein.
C'est gentil.
C'était pas compliqué. Hein.
Ce sismomètre dont la responsabilité technique et scientifique est française, on est très très fiers, Cocorico, eh bien il a été déposé le 19 décembre 2018 sur le sol martien, c'est récent, fin d'année dernière, grâce à un bras automatique de l'atterrisseur d'InSight arrivé lui aussi sur la planète rouge le 26 novembre. Alors quel est son objectif ? Eh bien c'est d'écouter battre le cœur de Mars. Ah si, il y avait une transition. Écouter battre le cœur de Mars, là il faut un gros stéthoscope. Et séisme après séisme, en apprendre plus sur l'histoire de sa formation survenue il y a des milliards d'années. Selon Bruce Bannard, responsable scientifique de la mission au sein de la NASA, le tremblement survenu donc au 128e jour martien de la mission, eh bien, il marque la naissance officielle d'une nouvelle discipline, la sismologie martienne. Alors, pour l'instant, hein, il s'avère trop faible pour fournir des données utiles sur l'intérieur de Mars. Mais bon, affaire à suivre peut-être avec les prochains séismes. Et selon les scientifiques, il reste également à confirmer que ce tremblement enregistré trouve bien son origine à l'intérieur de la planète. Parce qu'en effet, on le rappelle, il peut y avoir des effets dus au vent ou à d'autres sources de bruit parasites. Donc, trois autres signaux, mais qui sont bien plus faibles hein, que celui détecté le 6 avril, ont ensuite été enregistrés au cours donc, des semaines qui ont suivi. Donc, affaire à suivre, sûrement qu'il y aura encore d'autres occasions de pouvoir en savoir plus grâce à ces tremblements martiens.
Mais tu sais très bien, Carole, que où que tu sois, même à distance, tu fais trembler même Mars. C'est assez intéressant. Comme tu nous as envoyé, oui, bah, écoute, je suis aussi poète. Hein, oui, le printemps des poètes, c'est aussi fin mai, il n'y a pas de raison. Comme tu nous emmènes dans l'espace, du coup, on va y rester et je vais te parler de cet article très glamour qui nous emmène à la Station Spatiale Internationale parce qu'il y a enfin une étude de la NASA qui nous confirme, parce qu'on s'en était quand même un petit peu douté, qu'il y a d'innombrables bactéries et champignons à l'intérieur de cette station spatiale internationale. Les bactéries présentes sont en majorité les staphylocoques, avec le redoutable staphylocoque doré également. Il y a aussi des entérobactéries, ces bactéries qu'on trouve notamment dans les intestins, bien sûr. Et puis, il y a également des champignons avec notamment le Rhodotorula mucilaginosa, qui est une espèce pathogène, donc il faut vraiment faire attention. La communauté donc de ces micro-organismes de la Station Spatiale Internationale ressemble fortement donc à celles vivant dans les environnements clos soumis à une occupation humaine sur Terre. Les salles de sport, les immeubles de bureaux, les hôpitaux et donc maintenant la Station Spatiale Internationale. Ils étaient, ces micro-organismes, bien sûr, plus abondants dans les lieux les plus visités par les astronautes, les espaces de repos, la table à manger et bien sûr les toilettes. Cette étude très sérieuse de la NASA a été parue dans le journal Microbiome. Et en fait, ils ont travaillé sur un peu plus d'un an en prélevant des micro-organismes à trois reprises. Et en fait, ils ont récupéré un petit peu partout dans cette station spatiale internationale. Et ensuite, ils ont renvoyé tous les prélèvements sur Terre pour pouvoir être étudiés. Et donc, c'est là qu'on a pu faire une cartographie un petit peu du microbiote de cette station. En plus des agents infectieux potentiels, des bactéries et des champignons identifiés sur la station spatiale internationale dans cette étude pourraient aussi dégrader les matériaux. C'est ça aussi qui est important et dangereux, par corrosion microbienne. Et ça aussi, voilà, ça peut être assez sensible. Ça peut soit avoir la corrosion, soit en essayant de s'agglomérer sur une matière, ça pourrait aussi essayer de faire adhérer ensemble plusieurs surfaces. Donc c'est vraiment sérieux. Et les chercheurs ont donc pu avoir un aperçu de l'évolution spatiale et temporelle de ces bactéries, parce que comme ils ont fait plusieurs prélèvements sur la durée, ils ont pu un petit peu voir vers quoi ça évolue. Eh bien, ça évolue pas dans un bon sens, parce qu'il va falloir vraiment faire très attention par la suite. C'est pollué comme sur Terre, en fait. Il n'y a pas, faut pas croire que ça soit plus propre là-haut. C'est également la même chose, mais en tout cas, ça peut avoir un vrai impact, comme on l'a dit, sur la vie à bord de la Station Spatiale Internationale. Et puis, bien sûr, comme on en parle dans cette émission, on va aller sur la Lune, on va aller sur Mars. Et ça va être la même problématique, c'est-à-dire qu'il va falloir bien sûr essayer de gérer tout cela. Si on n'arrive déjà pas à le gérer dans un petit environnement qui est la Station Spatiale Internationale, quand on va coloniser Mars, ça ne va pas être une partie de plaisir. Mais en tout cas, voilà, c'est la première fois. Alors, on est un petit peu douté parce que ce n'est pas la première fois que l'on parle quand même de bactéries dans la Station Spatiale Internationale. Mais là, c'est la première fois que la NASA a fait une étude assez approfondie et assez exhaustive pour connaître un petit peu l'environnement. Ça doit être une infection dans la station spatiale, ça ne fait pas du tout rêver.
Pas du
tout,
ça donne vraiment pas envie d'y aller. Faudrait qu'on demande à Thomas Pesquet si quel niveau de désinfection.
Je n'en sais rien. On va peut-être attendre qu'il se désinfecte avant de lui serrer la main.
En fait, on voulait le recevoir, mais je crois que finalement, on va se raviser.
On va l'appeler par téléphone, ce sera beaucoup plus simple. On écoute un dernier titre dans cette émission, puis on retrouve Carole par la suite. Et tu vas nous parler de quoi juste après le petit titre?
On va rester sur la thématique des agents infectieux.
D'accord, je vois de quoi tu vas nous parler. Allez, à tout de suite sur l'antenne de Graphite.
Boom chak, Boum, tchac, ça claque, à poids de l'épaule on est 4-4, des abonnés, des corps dans un fracas. Travaillons la méthode, le hip-hop nous épaules. Peu importe l'école, c'est le tracas de nos victoires écoles. Sous le parpleur, on assume une rôle, pas de bla bla ni de ça, on dit donne, vise plus haut que le sol. Sans réclamer le trône, c'est de la patate de bar, j'ai pas ça de marque. À la base, pas de l'arc, de l'art et de l'argot. Maîtrisant les cartes et les cartes, des fardeaux hors de la marde. On parle avec des marteaux, acrobat des pages, pas les mêmes que les narcs. Armés d'un arc, bouche à renard et corbeau. Écoute une mort sur le rap, ton corbeau. Hardcore, state of mind, c'est hardcore. State of mind. Hardcore, state of mind. Hardcore, state of mind. Hardcore, state of mind. Je débarque à froid et remarque ma proie. Faire et droit la marque de mon coup, ça croit. Ça fume, ça boit, ma plume aboie. Pas d'acune au sort de la plume à trois. Impossible d'esquiver, d'imiter, d'éviter, de déséquilibrer l'attaque. Tic, impensable, des titans, délirants, débitants, héritants de maîtriser de bras. Tic, s'imposant, débridé, décidé, aiguisé, équipé d'une endurance sans fin. Tic, s'imposant, décoiffante, déboîtante, décapante, épatante. Elle équipe des claques types. Les frères qui aiment les belles fresques à terre. J'adore dire que le plus dur reste à faire. Dans cette belle mêle de presse à terre. Même presque à terre, on écrase tes artères. J'ai le cœur qui bat, débuté des bacs à puche obligatoire. Non pas de qui parle, l'adrénaline me contamine. Je suis un soldat qui fait ta victoire. Que si vous levez les bras, paniquez pas. Vite pas, c'est des tapants et parce qu'on est connu de barre. Pas que j'étais car mon exutoire. C'est par le foutoir que l'auditoire se fait le choix. Passion de son similaire. Bouge ton huc, bouge ta nuque jusqu'au molaire. Les basses résonnent dans mes coronaires. Cogne jusqu'à l'embolie pulmonaire. Ça nous rendra pas millionnaire. Mais dans cette affaire, on y a millionnaire. Ce concert met en l'air. Ceci n'est pas un braco vénère, mais un concert.
Je vois la scène comme un échec si j'ai pas senti le faux. 20 mots, m'en faut dire que ma prime t'y mal talent qu'il faut. Je déchaînerai mille faux stepping quand ton pot si garanti faux. Des masques qui se passent après que t'es FR ralenti. Je décale les tics et la foutre tout le vent pour rassurer les types qui doutent tout le temps. Je dévale le beat et fuis le rédit, malade qui le bise, suis le bise, la folie subite, devine qui la mise. J'emballe l'équipe et le public, fait des bruits débiles, foutre, voilà, foule, foule, foutre tout le temps. Je dévale le bilan, mais le film et défile la mise, défile de syllabes et de rimes multisyllabiques.
Hardcore, state of mind. Hardcore, state of mind. Hardcore, state of mind. Hardcore, state of mind.
Tu vois les veines frontales de Narf éclater.
DF la voix est raillée.
A des sautants partout, cercle les bras écartés.
On veut voir la foule se réchauffer, pas moyen de la voir se les cailler.
On est venu brailler.
Si au menu y'a du mic à grailler. C'est notre loyer tenu à nous y dévouer sans mécène.
L'entrée c'est prestation, tu payes jamais l'entrée chère.
On déchire l'atmosphère, on sort ce qu'on a dans le ventre et gère. L'âme est légère lorsqu'on s'affaire sur les scènes.
Graphite, également à l'écoute sur graphite.net.
Et c'était Hardcore, Hardcore, c'est pas Hard, c'est Hardcore, State of Mind sur l'antenne de Graphite, un groupe qui nous vient d'Alsace. Et tu nous faisais, pendant qu'on écoutait ce titre, toute une explication du nom de ce groupe.
On
en fait.
Essayait de trouver la signification, oui. On leur demandera.
Il nous reste à peine une dizaine de minutes pour finir cette émission Biotine, l'émission de science tous les samedis sur l'antenne de Graphite. Et donc tu vas nous parler de quoi,
d'un
Carole?
Sujet très important, donc, puisqu'on va aborder le sida, sujet qui revient régulièrement, mais il y a toujours des nouvelles recherches, il y a des avancées dans le domaine, hein, même si pour l'instant on ne parle pas d'un vaccin effectif. Mais en tout cas, on peut dire que un bon traitement à l'heure actuelle empêche la transmission du virus. Alors je m'explique. Chez les hommes homosexuels, qui sont la population donc la plus à risque, hein, mais comme chez les hétérosexuels, des rapports non protégés n'entraîne à l'heure actuelle aucun risque de contamination par le virus du sida si le traitement a réduit la charge virale au point de la rendre indétectable. Alors, je le rappelle pour nos auditeurs, quand on parle de charge virale indétectable, eh bien, c'est lorsqu'en fait le traitement contre le VIH est efficace, il arrive que la quantité de virus présente dans le sang, elle devienne si faible que les techniques habituelles n'arrivent même plus à la mesurer. Et c'est là qu'on parle justement de charge virale indétectable. Alors, une personne séropositive traitée efficacement ne transmet pas le virus du sida lors de rapports non protégés. Et donc, c'est une nouvelle étude qui le confirme et qui a été publiée dans The Lancet. Et moi, j'ai retrouvé ces informations donc, sur Science et Avenir. Alors, ces résultats, ils confirment donc un message qui est martelé depuis des années par les organisations de lutte contre le VIH et qui montre l'importance d'un meilleur accès au traitement pour enrayer l'épidémie. D'un côté, pour les gays, donc les homosexuels. Cette recherche de grande ampleur menée dans 14 pays européens, eh bien, elle a suivi pendant 8 ans, donc c'était entre 2010 et 2017, près de 1000 couples d'hommes ayant des rapports non protégés et où l'un des partenaires était donc séropositif, mais avec une charge virale indétectable. Alors là, on parle de couples sérodifférents. Grâce aux médicaments, donc cette charge virale, elle était bien sûr indétectable grâce aux médicaments antirétroviraux. Le résultat, eh bien, c'est qu'aucun cas de transmission du VIH n'a été observé au sein de ces couples. Au cours des 8 années qu'a duré l'étude, les chercheurs estiment que l'usage d'un traitement antirétroviral efficace a permis d'empêcher environ 472 transmissions du VIH. Et du côté donc des hétérosexuels, eh bien, ces conclusions renforcent celles auxquelles les chercheurs étaient parvenus lors de la première phase de l'étude, qui avait été donc publiée en 2016. Incluant plus de 500 couples hétérosexuels, cette première étude elle avait montré que le risque de transmission du VIH chez les couples hétérosexuels sérodifférents était de zéro. Mais ils avaient alors estimé qu'on ne pouvait pas totalement exclure un risque de transmission pour des rapports anaux sur une période plus longue. Oui, on va dans le détail. Alors cette fois, hein, avec cette nouvelle étude, Alison Roger, professeure à l'Université College London, estime que nos résultats apportent une preuve concluante pour les hommes gays que le risque de transmission du VIH avec une thérapie antirétrovirale, eh bien, elle supprime la charge virale, donc enfin ce risque, donc il est bien de zéro. Pour obtenir ces données, hein, comment est-ce que les chercheurs ont procédé ? Eh bien, ils ont soumis les couples tous les 6 à 12 mois à des questionnaires confidentiels sur leur comportement sexuel, également à un dépistage du VIH chez le partenaire séronégatif et à la mesure de la charge virale dans le sang chez le partenaire séropositif. En cas d'infection, des tests génétiques déterminaient si le virus était génétiquement similaire au virus de leur partenaire ou s'il avait été acquis d'un autre partenaire sexuel. Alors, le principe selon lequel une personne sous traitement ne transmet plus le virus, qui était donc résumé par le slogan U égale U pour undetectable equals untransmittable, c'est bien sûr de l'anglais, eh bien, il est défendu, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, par les associations en fait, de lutte contre le sida depuis plusieurs années. Et en fait, cette nouvelle étude, elle va pouvoir les aider à faire passer ce message qu'il n'y a vraiment aucun risque, notamment auprès des médecins généralistes. C'est ce qu'estime en tout cas Aurélien Bocan, qui est président de l'association française AIDS. Et ça, c'est important parce que je pense qu'en effet, il y a aussi quand même pas mal de mentalités à faire changer, ne serait-ce que dans le milieu médical. Mais finalement, le vrai cheval de bataille à l'heure actuelle, ça va être le dépistage. Ça reste néanmoins le dépistage des populations à risque. Il y a eu un commentaire indépendant sur cette étude réalisée par Myron Cohen, qui est l'un des pionniers des recherches sur l'efficacité des traitements du VIH pour réduire les contaminations. Et donc lui, il qualifie en fait les résultats de la professeure Roger et de ses collègues d'importants. Mais il veut aussi souligner qu'on ne peut pas baser la stratégie de prévention uniquement sur ce principe. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il n'est pas toujours facile pour les gens de se faire dépister ou d'avoir accès aux soins. De plus, la peur de la stigmatisation, l'homophobie, continue à entraver les traitements du VIH. Parmi les limites de leur recherche, hein, les auteurs notent ainsi que la majorité des participants séropositifs étaient sous antirétroviraux depuis plusieurs années et qu'ils disposaient donc de données limitées sur le risque de transmission au cours des premiers mois de thérapie antirétrovirale. Moment qui est intéressant parce qu'en effet, on peut imaginer que dans ces moments-là, le risque de transmission est plus élevé. Alors, le Fonds mondial contre le sida note que la difficulté, c'est que c'est pendant justement la période précoce de l'infection qu'une transmission du VIH a le plus de probabilité de se produire. Et donc, ce fonds, il insiste justement sur l'importance de faire davantage pour encourager les populations à risque à se dépister. Cette organisation, donc le Fonds mondial contre le sida, elle espère lever 14 milliards de dollars à Paris en octobre 2019, donc en fin d'année, pour financer ses actions. Depuis le début de l'épidémie, 78 millions de personnes ont été infectées par le VIH et 35 millions sont mortes. Donc bien sûr, c'est des chiffres mondiaux, ça reste quand même très important. Malgré les progrès de la prévention et des traitements, il y a eu encore 1,8 million de nouvelles contaminations en 2017, contre 3,4 millions au pic de l'épidémie, qui était donc en 96. Donc c'est quand même moins, mais ça reste un chiffre trop important. Et près de 1 million de décès, soit moitié moins qu'en 2005. Donc les résultats sont encourageants, on voit une diminution qui est constante. Néanmoins, on en parle des fois moins en termes de prévention, notamment aux jeunes. Et je pense que c'est pour ça que c'est intéressant de continuer à parler de ce sujet-là, Certes, des avancées qui vont dans le bon sens, mais rappelez que la maladie est toujours présente.
Oui, on en parle très souvent dans cette émission, des recherches associées donc, sur le sida. Ce qui est intéressant, là, c'est qu'on a suivi un nombre important de personnes sur la durée. C'est ça aussi qui est intéressant.
Tout
c'est
à
pas
fait.
Juste.
8 ans.
Voilà, 8 ans, c'est quand même pas rien. 1000 couples homosexuels. Donc, c'est voilà, il y a quand même une étude vraiment importante sur la durée et les résultats sont donc considérés comme assez probants. Donc, c'est ça qui est intéressant. Mais effectivement, la recherche dans ce domaine-là se poursuit et on peut effectivement un petit peu déplorer le fait que ça ne soit plus considéré comme comment dirais-je, une action importante à mener. On ne parle pratiquement plus du sida maintenant et c'est un petit peu dommage. Même le sida-action n'est plus rien, n'a plus d'impact tel qu'on l'avait connu
à une
notre époque, oui. Carole, il y a quelques années où finalement sida-action...
Notre époque, je ne sais pas si je me désolidarise pas là...
Eh bien, écoute, on verra cela.
On fait partie de la même génération, d'accord.
Oui, mais disons qu'on en parlait plus dans les années 90 et 2000 que maintenant.
Oui, tout à fait.
Le sida, on ne sait pas. C'est malheureusement pas quelque chose qui est mis en avant, mais en tout cas, dans cette émission, on en parle assez régulièrement. C'était une émission assez intense, mais
oui.
En tout cas assez intéressante parce qu'on a parlé quand même de sujets qui nous concernent, qui vous concernent, et c'est aussi tout l'intérêt de cette émission Biotine. C'est la fin de cette émission. Je vous parlerai la semaine prochaine de cet article assez rigolo qui montre que si on se marie un petit peu plus tard, eh bien c'est un petit peu meilleur pour la ligne. On verra cela.
Intéressant,
mais
j'ai
oui.
hâte.
Eh bien écoute, ça sera la semaine prochaine dans l'émission Biotine, samedi à 12h sur l'antenne de Graphite, et on retrouvera aussi Anne Fleur qui nous emmènera assez loin, je pense, pour nous parler des innovations du monde. Carole, on te retrouve la semaine prochaine.
Oui, on se retrouve la semaine prochaine. Je ne vais pas manquer ça.
Eh bien, tu en sauras plus alors sur ce mariage, ce lien entre le mariage et, je dirais, une certaine obésité de certains hommes. Mais bon, c'est scientifique et ça s'explique. Samedi prochain, 12h sur l'antenne de Graphite. Et n'oubliez pas la rediffusion. Mardi matin à 10h, toujours sur le graphite.net et le 94.9. Je vous souhaite, nous vous souhaitons une bonne journée.
Une bonne journée.
À bientôt, au revoir.